Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
Courir, nager, pédaler, frapper fort.
Le but, c'est marqué.
L'équipe de France est championne du monde. Oh putain.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le département de la Sarthe. Comme toutes les semaines, je suis avec Fred Geffard. Bonjour Fred.
Bonjour Robin, bonjour à toutes et à tous.
Et cette semaine, Fred, on va parler de sport automobile avec un jeune pilote qu'on a reçu plusieurs fois dans cette émission, Mathis Poulet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, nouvelle saison, nouvelle équipe, nouveau modèle. Cette saison, vous concourez avec une NP02 en Ultimate Cup Series avec la team ANS Motorsport. Alors, on va parler de votre début de saison. Il y a quelques jours, vous étiez au Castellet. On va parler des échéances à venir également, puisqu'il y a des choses qui arrivent. Mais avant ça, parlons un peu du présent et de l'actualité. Vous avez donc changé d'équipe il y a quelques semaines avec l'ANS Motorsport, comme on le disait. Déjà, Mathis Poulet, qu'est-ce qui vous a motivé à changer d'équipe, à partir vers ce nouveau projet ?
Alors tout simplement, ça s'est fait pendant l'hiver. J'avais plusieurs opportunités différentes en fonction des différents championnats. Bien sûr, en endurance, il y a pas mal de championnats aujourd'hui. Et donc ça s'est fait avec ANS, tout simplement parce que c'est aujourd'hui une des meilleures équipes en France sur de la NP02, donc la voiture dans laquelle je roule cette année. Et le championnat Ultimate Cup Series est un championnat qui a pour objectif de permettre aux jeunes pilotes de finalement d'évoluer vers les 24 heures du Mans, ce qui est mon objectif depuis plusieurs années maintenant. Et c'est un super bon championnat qui me permet vraiment de découvrir de nombreux circuits. On va y revenir un petit peu plus tard dans cette interview, mais effectivement, c'est de pouvoir vraiment découvrir de nouveaux circuits et surtout dans le cadre d'un championnat européen avec un niveau très élevé. Donc c'est une super belle opportunité, un super beau programme qui m'attend cette année.
Déjà au début, vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs candidats qui ont tapé à la porte pour vous.
Effectivement, oui, j'ai plusieurs équipes dans différents championnats, de la LMP3 tout d'abord, qui était ma catégorie l'an dernier. J'ai également aussi eu un temps travaillé sur un projet pour faire les 24 heures du Mans, parce que j'avais des équipes en fait qui étaient intéressées par mon profil pour faire les 24 heures. Budgétairement parlant, c'était un petit peu prématuré malheureusement. Et puis bien sûr, cette opportunité-là en NP02 qui me semblait la plus intéressante pour faire de la performance. Mon objectif maintenant, c'est de pouvoir me montrer au niveau international. Et puis je suis super content surtout de refaire une saison complète, parce que ces deux dernières années, j'avais fait quelques courses en Le Mans Cup, et de faire cette fois-ci un championnat européen en entier, c'est un vrai plaisir, et je suis en plus dans le cadre d'une super bonne équipe.
L'Ultimate Cup Series, justement, est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus pour les gens qui nous écoutent, présenter ce nouveau challenge, qu'est-ce qu'il y a de différent ?
Alors c'est un championnat qui regroupe plusieurs catégories de voitures, donc il faut savoir que c'est un championnat qui mélange à la fois courses d'endurance et courses sprint. Moi donc j'évolue dans le cadre du challenge proto qu'ils organisent, donc c'est un championnat où il y a uniquement des prototypes, donc des voitures qui sont exclusivement réservées au circuit, donc des LMP3 et des NP02. Il faut savoir que la catégorie aujourd'hui la plus importante dans mon championnat, c'est la NP02, où on est 19 sur 30 voitures, le reste sont des LMP3. Et ensuite il y a également des catégories GT, donc GT endurance et GT sprint, donc c'est un super beau championnat qui permet aussi de voir de nombreuses voitures courir différentes. Et c'est aussi important en tant que pilote d'endurance de pouvoir être assez polyvalent et aussi d'être en contact des équipes GT, parce qu'avec les GT3 qui reviennent au Mans cette année, ça va être important. Et les GT3 roulent dans ce championnat-là aussi. Donc c'est une vraie chance pour moi d'évoluer dans un championnat comme celui-là cette année.
Et vous êtes confronté à des collègues, des coéquipiers d'horizons différents, de nouveaux profils aussi, d'expériences différentes ?
Totalement, je roule avec deux pilotes gentlemen, donc c'est des pilotes qui sont un petit peu plus âgés que moi et qui ont des entreprises à côté, donc c'est super intéressant. Et depuis tout petit, en fait, j'ai ce rêve de participer aux 24 heures du Mans et devenir pilote professionnel. Et finalement, en fait, directement après la Formule 4, j'ai décidé de m'orienter vers l'endurance parce que c'est le format de course qui me plaît le plus, le fait d'être en équipe. J'avais déjà en plus fait les 24 heures en karting qui m'avait confirmé le fait que c'était plus vers l'endurance que je voulais me destiner. Et puis surtout pour les valeurs que ça transporte, de partager la voiture, de partager avec les mécaniciens, avec tout le staff et puis également les partenaires, c'était clairement le genre de course qui m'intéressait. Et effectivement, d'évoluer en plus avec des profils différents, c'est intéressant parce que du côté pilotage, forcément l'objectif c'est de devenir professionnel. Maintenant, d'évoluer aussi, d'échanger finalement avec des chefs d'entreprise qui font des courses le week-end, c'est aussi super enrichissant et j'aime beaucoup cette atmosphère-là.
Fred Geffard.
Alors vous êtes avec deux gentlemen drivers avec vous, donc des pilotes qui sont amateurs, dans le sens noble du terme, hein, c'est des gens qui sont tout passionnés et qui ont également un bon coup de volant. qu'est-ce qu'ils vous ont appris déjà, le peu de temps que vous avez couru ensemble, donc vous avez couru ensemble au Castellet? Est-ce que déjà il y a des petits mécanismes, des petites astuces qui vous apprennent, même si on apprend toujours?
Alors il y a effectivement, on échange beaucoup. Alors après effectivement, j'ai échangé avec eux que le temps d'un week-end pour le moment. Il y a encore 5 autres meetings pour en faire plus ample connaissance, mais en tout cas c'est vrai que ça se passe très très bien avec eux. On s'est tout de suite super bien entendu et c'est super important en endurance de bien s'entendre avec ses coéquipiers parce que finalement c'est aussi grâce à la bonne entente qu'on va chercher de la performance.
C'est un vrai travail d'équipe de toute façon.
Ah bah totalement, si il y a un maillon de la chaîne qui fait mal son boulot, c'est sûr que toute l'équipe entre guillemets en pâtit, donc c'est super important. Et moi ce coach le plus entre guillemets avec ces pilotes qui sont aussi des chefs d'entreprise, c'est leur capacité à être à la fois dans leur meeting et la capacité qu'ils ont aussi à gérer leur entreprise en même temps, c'est-à-dire que j'ai mes coéquipiers qui travaillent entre les séances pour leur entreprise et c'est assez intéressant et c'est surtout super, super enrichissant de les voir faire le switch en 10 secondes de leur mode professionnel à leur mode course entre guillemets. Leur mode pilote. Donc c'est super intéressant et moi j'échange beaucoup aussi parce que je suis passionné d'entrepreneuriat, passionné de l'entreprise dans le sens noble du terme et donc c'est super intéressant de pouvoir à la fois échanger pilotage et gestion d'entreprise avec eux.
Oui, puis on a parlé d'NP02. Quelles sont sur ce modèle et ces techniques de pilotage, quelles sont ces difficultés, ces avantages, ces choses qui changent, ces particularités?
Alors effectivement, c'est une voiture qui est différente de la LMP3. Alors oui, ça reste une base prototype avec une coque en carbone, donc ça reste finalement à peu près le même type de pilotage, on va dire. Maintenant, c'est une voiture qui est plus légère que la LMP3, donc ça demande à pouvoir emmener plus de vitesse dans les entrées de virage, donc c'est quelque chose qu'il faut que je désapprenne, entre guillemets, la LMP3, où j'avais tendance à freiner un petit peu trop en entrée de virage pour faire tourner la voiture qui était plus lourde. Donc là, je suis en train de réapprendre un petit peu à piloter différemment. Sinon, ça reste une voiture super, super confortable à rouler, super agréable surtout, et qui, en termes de performance, malgré le fait qu'elle coûte deux fois moins cher que la LMP3, est quelque chose de très très proche, et on prend un pied aussi important qu'en LMP3 de rouler dans ces voitures.
Pendant l'année 2023, vous avez rencontré quelques difficultés financières, hein. Vous expliquiez que ça a pu vous freiner, hein, dans votre saison. Quel bilan vous tirez malgré tout de cette année dernière ?
C'est toujours bien sûr super important de faire les bilans des différentes années. Effectivement, l'an dernier, j'ai fait qu'une seule course. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps de faire aussi peu de temps en piste. Mais finalement, c'est un bon apprentissage, je pense, parce que j'ai vraiment préparer toute ma saison sur un seul événement, donc c'était aussi beaucoup plus de pression à gérer parce que j'avais qu'une chance pour prouver que j'étais rapide. J'ai réussi à le montrer. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de me trouver des opportunités pour cette année aussi, de montrer que j'étais aussi en capacité de revenir sur une course et tout de suite d'être dans la performance, surtout à la route tout le Mans, donc en course d'ouverture des 24 heures du Mans, qui est l'épreuve mondiale en LMP3. Donc ça a été super intéressant et effectivement, c'est sûr, budgétairement, c'est aujourd'hui le seul frein qui me freine dans ma progression. Si j'avais eu les financements cette année, j'étais aux 24 heures du Mans, j'aurais pu faire de la LMP2 aussi. Donc forcément, c'est pas facile quand on est jeune pilote, quand on est motivé, qu'on se donne à 100%, voire même beaucoup plus. Moi, 100%, c'est le minimum, hein, c'est pas en dessous. Donc,
c'est un sacrifice, oui, parce que c'est une passion, mais c'est un sacrifice aussi.
C'est un vrai sacrifice parce que ça demande un temps infini. On s'imagine pas vraiment quand on n'est pas immergé dedans. Même moi, hein, quand j'ai commencé tout mon parcours, je ne m'attendais pas à devoir travailler autant. Mais bon, j'aime le travail, donc ça ne me pose pas de soucis. Mais effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps. Je suis jeune, j'ai 20 ans, donc je prends le temps aussi de passer les étapes. Pour moi, de revenir en Ultimate, c'est une bonne étape aussi. Ça peut montrer que je suis en capacité d'emmener une équipe. Parce qu'aujourd'hui, je suis le seul pilote, entre guillemets, professionnel dans mon équipage. Et donc, je vais avoir un peu ce rôle de meneur chez ANS au sein de mon équipe et de mon équipage pour, finalement, je vais être le metteur au point. Je vais être le gars qu'il va falloir pousser pour aller chercher les chronos, etc. Donc, moi, j'aime bien ce rôle-là et ça va être super enrichissant sur la partie technique aussi, finalement. Donc, toute étape est bénéfique et il faut savoir retirer le maximum et le plus positif possible de chacune des étapes.
L'année dernière, quand vous avez fait qu'une seule épreuve, il n'y a pas cette épée de Damoclès, cette peur de dire, ça se trouve, au premier virage, on va me taper, je vais partir en tête à queue et ça va être fini. Il y a cette pression de se dire qu'il peut se passer quelque chose indépendant de votre talent et de votre volonté qui fait que ça peut s'arrêter et ça aurait pu être catastrophique.
Effectivement, oui, c'est sûr que c'est un petit peu ce que je disais à l'instant. Effectivement, c'est, j'avais tout tenté sur une course, donc c'est un pari qui est toujours risqué parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Surtout que la route tout le Mans, c'est réputé pour être une épreuve où c'est très très compliqué de sortir des premiers virages parce qu'il y a énormément de voitures. C'est la course qui est la plus médiatisée dans le cadre du championnat, et en LMP3, je pense que c'est l'une des plus médiatisées au monde, donc forcément tout le monde va être devant. Et c'est une pression, effectivement. Maintenant, c'est aussi un bon exercice parce que ça me permet très tôt dans mon parcours d'être habitué à gérer une pression assez importante.
Oui.
Et j'ai relevé le pari avec haut la main l'an dernier en faisant 6e en qualification et 7e en course. Donc,
vous avez fait une très belle course. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui joue avec votre jeune âge, de montrer que vous êtes capable de garder la tête froide dans une épreuve qui est quand même... On peut craquer à n'importe quel moment. Et là, vous avez montré que vous étiez capable d'être le leader d'une équipe. Parce que on avait regardé la course, c'était très impressionnant.
Justement, on va revenir sur vos performances, votre actualité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On parlera du Castellet. Avant ça, une pause musicale. On écoute Julian Casablanca, c'est Eleventh Dimension. A tout de suite sur notre antenne.
FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de cette émission. Et avec Fred Geffard, nous sommes toujours avec Mathis Poulet pour parler cette fois-ci de son actualité, puisqu'en première partie, on a surtout parlé de ce changement d'équipe, de cette adaptation en ce début d'année. Désormais, on va se tourner vers l'actualité sportive. Vous étiez au Castellet il y a quelques jours. Alors, il y a eu une panne, il y a eu de longues minutes d'attente. Malgré ça, vous retenez des choses positives. Quel bilan vous tirez de cette course ?
C'est une première course plutôt vraiment positive pour le coup. C'est encore une fois dans mon parcours, c'est la première fois que je roulais en compétition avec cette voiture. Je me retrouvais face à des pilotes qui sont très expérimentés. Le niveau de l'Ultimate est quasiment aussi bon que le championnat Le Mans Cup cette année, ou des précédentes années en tout cas que j'ai connues. Donc c'est un niveau qui est assez élevé et très, très important, donc il faut rouler vite pour être devant. Effectivement, on a eu un petit souci mécanique sur la course, mais bon, c'est le sport automobile après tout, c'est comme ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé, on sait justement ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une défaillance de pièces au niveau du collecteur d'échappement, donc ouais. La pièce qui est juste après le moteur finalement au niveau de toute la partie échappement, et donc il a fallu qu'on remplace une grosse partie de la partie gauche de l'échappement, donc ça nous a pris 25 minutes. Donc forcément sur une course de 4 heures, quand on perd 25 minutes au stand, on peut rien jouer. Maintenant ce que je retiens, c'est notre rythme. Au début de week-end, on était un petit peu plus loin, dans le milieu du peloton, et puis on a beaucoup travaillé, l'équipe s'est bien remise en question, les pilotes on s'est concerté aussi pour essayer de trouver les solutions pour accompagner l'équipe et le staff technique pour trouver les bons réglages. Et en qualification, la voiture était complètement transformée. Moi, je fais 6e dans ma qualification de nuit. C'est la première fois que je faisais une qualif de nuit aussi. Donc, pas mal de petits éléments à gérer. Puis en course, on avait un très bon rythme. Sans cette panne mécanique, on l'estime pouvoir faire dans le top 5. Donc, c'est plutôt positif quand on prend en compte de là où on partait au début du week-end. Donc, je suis plutôt ultra satisfait.
Les premiers essais libres avaient été assez moyens en définitive. Vous étiez 19e de la première séance. C'était quand même...
C'était compliqué.
Des problèmes de mise au point ?
Effectivement. En fait, on est arrivé sur le circuit avec une voiture qui était un peu instable. Mais finalement, après, en travaillant avec l'équipe, l'équipe a une énorme expérience et ils ont fait un super boulot également pour trouver et mettre le doigt sur le problème de la voiture et nous donner tout de suite directement les bons réglages. Parce que finalement, un week-end se passe très vite. Il y a quelques séances d'essai libres. Il faut que tout le monde puisse se remettre aussi dans le rythme. C'est la première de l'année, donc tout le monde se rôde et on a plutôt bien géré cette partie-là. Donc maintenant, à nous, il nous reste 2 mois avant Portimao pour préparer la course qui s'annonce en plus être la plus longue du championnat. Donc un beau challenge.
C'est ce qu'on voyait, Mathis, avant, on regardait un peu les résultats des qualifs. Entre les premiers essais et les qualifs, il y a presque 3 secondes d'écart au niveau du temps. C'est-à-dire que vous aviez trouvé immédiatement le problème, en fait. Et là, vous étiez vraiment très, très rapide.
Effectivement, en qualification, on a fait des très bons chronos. Je ne m'attendais pas à être aussi vite, pour être honnête, parce que j'ai quasiment jamais roulé de nuit. Au Castellet, il y a un circuit éclairé, mais voilà, ce n'est pas non plus une route nationale comme on pourrait avoir dans Le Mans. Donc c'est clair qu'il faut regarder loin et c'est pas toujours simple de trouver ses repères. J'avais pas en plus profité des séances d'essai de nuit pour faire un entraînement. Donc c'était vraiment en qualif que j'ai un petit peu tout découvert. Donc c'était un beau challenge. Je l'ai relevé avec brio. Donc je suis fier et je suis super super content. Et on est rassuré sur le fait que la voiture va bien et qu'on peut en extraire encore plus de perf.
Et de nuit, c'est quoi la différence entre le pilotage de nuit et le pilotage de jour ? Parce que même si c'est éclairé, c'est quoi la grande différence qu'il y a ? L'écrasement des reliefs, des perspectives ?
Surtout, en fait, quand on fait du sport auto, on a l'habitude de regarder très loin. Quand on voit le jour, on regarde à 300, 400 mètres parfois de loin. Et la nuit, on voit rien. Entre guillemets, on voit à peine à 50 mètres devant la voiture, parce que les LMP3 et NP02 ont des phares beaucoup moins développés que les LMP2 au Mans. Et puis le circuit au Mans est quand même un petit peu plus éclairé, notamment sur la partie routière. Donc on y voit un peu plus clair. Donc c'est effectivement, il faut trouver ses repères et on ne peut pas se fier sur des repères visuels qu'on avait. Par exemple, au Castellet, pour ceux qui connaissent, il y a l'aérodrome qui est juste derrière. Et sur le premier virage, on peut se caler, parce que c'est un enchaînement gauche-droite. Et on peut se caler en fait l'angle de la voiture en fonction des hangars de l'aérodrome.
Ouais, ce sont vraiment des repères visuels.
Des repères visuels, exactement basiques. En fait, on essaye de trouver les meilleurs repères en fonction de comment il faut se placer pour que la voiture aille le plus vite possible. Et donc la nuit, on voit pas, enfin l'aérodrome, je voyais même pas le grillage qui débordait le circuit entre la.
Et oui, donc comme ça n'a rien à voir, justement, sur quoi on essaye de se baser? Si on prend l'exemple du Castellet, la nuit, quel type de repères on peut avoir au loin? Comment est-ce qu'on peut faire?
Mais il faut trouver tout simplement d'autres repères. On ne peut pas se fier aux mêmes repères de jour que de nuit. Donc il faut en trouver d'autres. Et c'est pour ça que le track walk, donc le tour de circuit à pied en amont du meeting, le mercredi soir, c'est super important parce qu'en fonction de comment la voiture est placée, on trouve un repère de jour et un autre de nuit. Comme ça, on essaye de trouver des solutions. De toute façon, on n'a pas le choix, on ne voit pas. Donc il faut trouver des combines pour quand même garder le rythme parce que souvent, en plus, les voitures sont plus performantes la nuit. Donc il faut encore sortir plus de performance. Donc ça, un très très beau challenge.
On a parlé de Portimao. Comment est-ce que vous vous positionnez pour la suite de la saison par rapport aux 24 heures? C'est quoi les échéances qui arrivent avant l'été?
Alors avant l'été, on va avoir deux courses en Ultimate Cup Series, donc la prochaine qui aura lieu fin mai à Portimao, donc ce sera en plus une course de 6 heures, c'est la première fois que je vais évoluer sur ce genre de format, le plus que j'ai fait c'était 4 heures au Castellet, donc ça va être super intéressant de rouler, passer beaucoup de temps en course dans la voiture, donc je suis super content, Portimao c'est mon circuit préféré après Le Mans, donc vraiment j'ai qu'une hâte, c'est d'y être, forcément. Et puis, on va surtout profiter de cette période de 2 mois qu'on a entre maintenant et le moment de la course pour bien se préparer, parce que Portimao, c'est le sud du Portugal. Limitement,
on redonne les dates, Portimao.
Portimao, alors, je n'ai plus les dates précises en tête, mais je sais que c'est le dernier ou avant-dernier week-end de mai. Ça doit être le 26-27. Il va faire très chaud. On va rouler deux jours en plus.
Sec.
On est dans le sud du Portugal. Je crois qu'on est à 50 km de la mer. Mmh. Donc, on est vraiment à l'extrême sud du Portugal. Donc, voilà, je vais faire un peu de cardio pour bien me préparer.
Et après Portimao, Hockenheim, c'est ça ?
Hockenheim, tout à fait.
Donc en Allemagne.
En Allemagne, début juillet. Et si tout se passe bien, je suis en train de travailler très très dur pour boucler les derniers budgets et essayer de trouver l'équipe. Je suis en train de discuter, mais potentiellement pour faire encore une belle road to Le Mans en ouverture des 24 heures cette année. D'accord. C'est l'objectif. Donc je suis en train de travailler dessus. Pour le moment, il n'y a rien de fait. Je me laisse encore un petit mois pour finaliser tout ça. Et je croise vraiment fort les doigts pour que je trouve les derniers financements pour de nouveau m'engager à cette belle course.
Fred, on va terminer cette émission avec un petit quiz.
J'aime bien poser des petits quiz. Un petit quiz objet. Rassurez-vous, hein, Mathis, c'est aucun jugement.
Il n'y a pas de piège.
Le dernier qu'on avait reçu, Louis Rossi, pilote Ligier, il était en stress comme si c'est pas possible, alors qu'il avait très très bien répondu.
Parce que vous êtes stressant peut-être, Fred.
Peut-être. alors, il y a eu le week-end dernier le Grand Prix historique d'Adélaïde, qui est disputé sur l'ancien circuit urbain australien qui a eu la chance de disputer le Grand Prix d'Australie de Formule 1 de 1985 à 1995. Il a été remplacé en 1996 par l'Albert Park. Savez-vous dans quelle ville se situe l'Albert Park ?
Alors, officiellement, je crois qu'on dit que c'est Melbourne, mais il me semble être Melbourne.
C'est Melbourne.
C'est Melbourne.
Alors, c'est à l'extérieur de Melbourne. C'est Melbourne, parce que
c'est dans la périphérie, il me semble. Il touche Melbourne, c'est ça.
Mais c'est Melbourne, très bien. Deuxième question, on parle d'actualité. Dorian Pain, qu'on a eu la chance de recevoir à Radio.
À l'occasion des 24 heures du Mans, oui.
Exactement. Dispute la F1 Academy, une épreuve 100% féminine de Formule 4. En Arabie Saoudite, à Jeddah, elle a reçu une pénalité de 20 secondes qui l'a fait passer de la première à la 9e place. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Alors oui, j'ai regardé la course en différé, c'est parce qu'elle a fait un tour de plus sous drapeau à damier, il me semble. Elle a eu un problème avec la radio, ou alors elle n'avait pas vu le drapeau à damier.
Elle n'avait pas vu le drapeau à damier, et son équipe ne l'a pas informé que la course était terminée, donc elle a continué, ce qui est très dangereux pour le coup, parce qu'elle a terminé, elle a été pleine balle sous drapeau à damier, alors que les autres pilotes et les commissaires sortaient pour acheter les drapeaux. Ce qui était dangereux, elle a pris 20 secondes de pénalité. Espérons que les prochaines courses, bon, elle avait gagné la première épreuve, hein, donc... Ensuite, Eric Hellary est un ancien pilote, il est le parrain de l'Ultimate Cup, donc j'imagine que vous avez eu la chance de le rencontrer.
Effectivement, oui. Bah, en fait, il était grand marshal donc de la Manche du Castellet. Donc, c'est-à-dire que c'était lui qui assistait les commissaires en fonction des actions de course.
Supervise les commissaires de course.
Exactement, pour les aider dans les décisions de direction de course en cas d'accident, pour statuer sur qui doit être fautif, qui doit être pénalisé, tout ça. Et il était avec nous au briefing. Donc, c'est un réel plaisir d'avoir des pilotes expérimentés, même dans le cadre de championnats comme l'Ultimate Cup Series, qui ne sont pas aussi encore répétés que les 24 heures du Mans ou les différents championnats CO. Et c'est top d'avoir des personnalités comme lui dans le paddock, qu'on peut croiser, qu'on peut parler avec qui on peut parler et qui est super abordable en plus, donc c'est vraiment un réel plaisir. Il semble qu'il a gagné deux fois Le Mans ou une
alors,
fois.
Alors, eh bien, ça va être lié à la question.
Ah,
Eric Hellary a remporté les 24 heures du Mans, dont l'édition 1993 avec Brabham, Geoff Brabham, le fils de Sir Jack Brabham, et Christophe Bouchu. Sur quelle voiture ?
Peugeot 905.
Ouais, très bien. Très fidèle à la marque socialienne, Eric Hellary. Ça va pour l'instant les questions, ça se passe
ça
bien.
Ça se passe pas trop mal, ouais.
Dernière petite question, par rapport un petit peu à... Alors, on n'en parle pas assez en termes d'actualité, mais c'est une question ancienne. Alan Stacey et Archie Scott Brown ont été des pilotes de Formule 1. Vous dites certainement rien.
Il y en a un si, l'autre un petit peu moins.
Alan Stacey peut-être vous dit quelque chose ?
Oui, ça me dit quelque chose.
Alan Stacey a piloté en 1959 et 1960 sur Lotus, Archie Scott Brown sur Conoff en 1956. Ils avaient un point commun. Lequel ? Mis à part le fait qu'ils sont morts en course, malheureusement, ce n'est pas les seuls. Mais voilà, ils ont un point commun. Connaissez Alan Stacey et la particularité d'Alan Stacey, c'est la même qu'à Archie Scott Brown.
Voilà, je ne sais pas du tout. C'est des aviateurs peut-être à la base ?
Alors non.
Je ne sais pas du tout.
Particularité physique.
Physique ? Je ne sais pas du tout. je sais pas, ils étaient très très grands, ils avaient du mal à rentrer dans la voiture peut-être.
Non, malheureux, enfin, serait-ce que ça, serait-ce bien non. Alors la réponse c'est qu'en fait ils sont handicapés.
D'accord, j'ignorais totalement.
Alan Stacy s'était fait amputer la jambe.
D'accord.
Donc il a continué à courir avec une seule jambe. Il avait un gaz qu'il actionnait avec la main. Et
d'accord.
Archie Scott Brown avait eu la rubéole quand il était petit. Et donc, il avait une main totalement déformée. Il n'avait que 3 doigts et un moignon. Et en fait, il le attachait avec une corde à son levier de vitesse. Ce sont les 2 seuls pilotes de Formule 1 qui seraient considérés aujourd'hui comme handicapés.
D'accord. Bah j'ignorais
courageux de faire des épreuves-là.
Surtout dans ces années-là. Dans les années 50-60. Ouais.
Voilà. Eh bien, on va s'arrêter sur cette anecdote. Merci beaucoup, Mathis Poulet, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous pour votre invitation.
On peut retrouver votre actualité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, on vous souhaite évidemment bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Puis on vous dit à très vite sur notre antenne. Merci, Fred Geffard.
Merci.
Et puis évidemment, c'est un programme que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne. We'll be right back.